Ce matin, nous allons, eh bien, prendre un peu cette même optique-là. En attendant le retour du Seigneur. Hein, comme les anges avaient dit, hein, aux disciples, il reviendra de la même manière. Il y a une promesse, il y a une prophétie, mais il y a pour nous aussi un grand enseignement. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Pierre, deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Et alors, la deuxième épître de Pierre, hein, quand Pierre écrit cette lettre, eh bien, il est quelque part sur la défensive, pas par rapport à lui-même, mais par rapport à ce qui est en train de se produire dans les églises. Parce que il y avait une propagation de faux enseignements de la part de faux docteurs dans les églises qui détournaient les chrétiens de la vérité et en faisant cela, eh bien, atténuer l'impact que ces chrétiens pouvaient avoir dans leur témoignage. Et donc Pierre écrit, hein, cette épître dans l'optique d'aider les chrétiens, eh bien, déjà à reconnaître les faux docteurs, mais à savoir aussi comment réagir face aux faux docteurs. Et l'une des thématiques dont il était question, hein, de la part des faux docteurs, eh bien, c'était sur le retour de Christ, l'avènement du Seigneur. Et donc, de Pierre, chapitre 3, et si vous me le permettez, nous lirons, hein, le chapitre entier. Verset 1er, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, en marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, comme je l'avais dit un peu en introduction, cette épître, Pierre l'a écrite pour avertir les chrétiens, hein, qui se trouvaient en Asie mineure. Hein, l'Asie mineure, c'était une région qui regroupait d'autres sub-régions comme le Pont, la Galatie, hein, la Bithynie. Et aujourd'hui, ça correspond, on va dire, plus ou moins, hein, à l'actuelle Turquie. Et cette lettre, eh bien, comme celle de Jude, hein, si vous lisez un peu ces deux épîtres en parallèle, Vous avez l'impression qu'il y en a un des deux qui a copié sur l'autre presque, hein. Mais c'est la même thématique. Ils ont été écrites les deux plus ou moins à la même époque, hein, entre 63 et 65 après Jésus-Christ, mais avec cet objectif, eh bien, d'avertir les chrétiens du danger des faux docteurs qui s'étaient infiltrés dans les assemblées. Donc Pierre ici, il est vers la fin de sa vie, hein, par rapport à ce que l'on sait de l'histoire de la vie de l'apôtre Pierre, mais il voit surtout ce danger se propager et il cherche à combattre pour la vérité, combattre par rapport à ce qui est enseigné qui n'a rien à voir avec l'enseignement de Christ, et il cherche donc à consolider les croyants par rapport à leur espérance, par rapport à cette espérance du retour du Seigneur, cette espérance aussi que nous avons tous de la justice de Dieu. Hein, je crois qu'on a tous ce désir profond de voir la justice s'appliquer. Hein, chaque fois que je vais allumer l'ordinateur et regarder hein, les infos hein, sur divers sites, etc., d'informations, il y a de quoi se cogner la tête, de voir ce que les gens font, ce que les gens disent, et le malheur hein, qui est partout hein, dans la vie des gens. Cette justice hein, que nous avons soif, dont nous avons soif, eh bien, nous avons cette espérance en Christ déjà que il va revenir. Et Pierre nous rappelle que cette espérance aussi, c'est que, eh bien, son jugement va s'accomplir, hein, le jugement de Dieu va s'accomplir, et aussi selon sa promesse, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et donc cette formidable promesse, c'est celle que l'on retrouve au cœur, hein, des attentes des chrétiens de tous les siècles. Depuis des siècles, chaque chrétien a cette espérance du retour de Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 3, nous avons cette promesse qui nous vient de la bouche même du Seigneur Jésus, hein, lorsqu'il dit, lorsque je me serai en allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà notre attente. Voilà notre espérance. Et l'importance de cette doctrine concernant le retour du Seigneur, mais aussi de voir comment répondre à ces faux enseignements par rapport à cela, eh bien, elle est importante. Aujourd'hui encore, nous attendons cet accomplissement de ce jour glorieux. Nous l'attendons de tout cœur. Nous sommes ceux dont parle le Seigneur hein, dans le Sermon sur la montagne. Rappelez-vous, on a déjà fait cette série de messages sur le Sermon sur la montagne, donc je ne vais pas y revenir. Mais quand il nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Quand il nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » C'est lié à cette espérance-là que nous avons, et le Seigneur Jésus a dit « Vous allez connaître cette justice. » Et donc Pierre, dans cette épître, il s'adresse encore à nous aujourd'hui, hein, bien des siècles plus tard, alors que nous constatons autour de nous des dérives hein, dans de nombreuses églises, mais dans la société, hein, des dérives qui ne cessent de croître. Eh bien, nous avons cette attente de justice, cette espérance. Et quelque part, un peu comme hein, les enfants la veille de Noël, hein, qui attendent de pouvoir ouvrir les cadeaux, hein, qui font même la pression hein, sur les parents pour ouvrir les cadeaux plus tôt, nous avons cette attente et cette espérance. Mais voilà, tout comme les anges l'avaient rappelé aux disciples, cette attente ne doit pas être synonyme d'un farniente spirituel, de dire « ça y est, je suis sauvé » et on attend. Ici, Pierre, il nous dit que l'objectif de ces épîtres, c'était d'avertir, mais aussi pour que les chrétiens, eh bien, soient fermes dans cette espérance. Et donc, pour tenir ferme dans cette espérance, il y a une chose que Pierre a voulu faire à travers ses écrits, et c'est ce que nous soulignons ici, c'est éveiller notre saine intelligence. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a plutôt tendance à donner la priorité aux émotions, aux ressentis, hein, aux sentiments, plus qu'à l'intelligence, à ce qui est raisonnable, ce qui est logique. Et là, Pierre, il nous parle de cela. Il y a une saine intelligence que Dieu nous a donnée à partir du moment où nous sommes devenus ses enfants, une saine intelligence qui nous enseigne à travers les Écritures. Et c'est cette saine intelligence que Pierre cherche à éveiller et que nous-mêmes devons éveiller. Alors comment? Ben, on parle de éveil, hein, ça fait penser au fait que ben, faut pas être endormi. Hein, la première chose que nous allons souligner ici, c'est que nous devons être spirituellement conscients. Conscient de ce qui se passe réellement dans ce monde. On a parlé un petit peu là de l'histoire de Job. Et on voit dans ce livre la réalité de la bataille spirituelle qui fait constamment rage entre Dieu et ses saints anges contre l'adversaire et ses démons. C'est la réalité. Et c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer, puisque nous-mêmes, qui sommes nés de nouveau, nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, nous avons reconnu que, voilà, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de sa miséricorde, nous avons besoin de sa justice dans notre vie. Et le jour où nous avons fait cela, c'est que, eh bien voilà, nous sommes devenus quelque part spirituellement conscients de notre situation. Conscient de ce qui se passe réellement dans ce monde, de pourquoi les choses vont mal, de pourquoi il y a ces souffrances, de pourquoi les gens sont si méchants les uns envers les autres. Si le terme éveillé signifie être sorti du sommeil, il signifie également provoquer la manifestation d'une aptitude. Hein, c'est faire appel à ce que nous savons déjà faire et de le pratiquer. Et par ses avertissements concernant les faux docteurs, Pierre explique qu'il cherche donc à inciter cette saine intelligence, et cette saine intelligence, elle est intrinsèquement liée à cette nouvelle nature que nous avons reçue en Christ, cette connaissance que nous avons acquise par les Saintes Écritures, comme il le mentionne également hein, au verset 2 hein, de ce chapitre, il dit « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, des choses que l'on sait déjà et qu'on a tendance à oublier. » Hein, on a cette facilité d'oubli hein, qui est assez considérable. On essaye d'apprendre les versets, hein, on essaie de retenir les leçons, mais il faut y revenir constamment. Et donc Pierre nous interpelle à être conscients, à être éveillés concernant les choses spirituelles de ce monde qui nous entoure, et il les met donc en perspective avec l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a révélé, voilà ce qu'il nous a communiqué sur ce monde, et voilà comment vous devez le voir. De la même manière que lui. Trop souvent, hein, nous chrétiens, nous sommes un peu à cheval entre ces deux réalités. Hein, la réalité que, oui, hein, on sait que le monde, il est sous l'empire du péché, mais quelque part, il y a tellement de choses dans ce monde que ah, c'est plaisant à faire et nous voulons profiter de cette vie un peu comme tous les autres. Et c'est une bataille. De nombreux chrétiens vivent leur vie sans forcément se rendre compte de cette réalité spirituelle. Et pourtant, l'Écriture sainte, elle est sans équivoque à ce sujet. Elle nous enseigne que le monde est sous l'empire du diable et du péché. Elle nous enseigne que nous sommes tous pécheurs, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Elle nous enseigne que nous, chrétiens, nés de nouveau, eh bien, à partir du moment où nous sommes en Christ, eh bien, nous sommes devenus ennemis du monde, car le monde a choisi d'être ennemi de Dieu. Nous sommes étrangers sur cette terre, citoyens de la cité céleste, nous n'appartenons plus à ce monde. Et elle nous enseigne aussi, comme Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre bataille à nous, c'est pas de prendre une épée ou des armes et d'aller massacrer des gens hein, en les forçant à devenir chrétiens. Non, pas du tout. Cette lutte, elle est spirituelle. Il dit, nous n'avons pas à lutter, dans Éphésiens 6, hein, les versets 12 à 14, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi une réaction à avoir par rapport à ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins hein, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, etc. Et donne toute la panoplie, toute l'armure hein, que Dieu a donnée aux croyants pour traverser ce champ de bataille qu'est le monde dans lequel nous vivons. Mais tant que nous ne prenons pas conscience de cela, nous sommes spirituellement endormis. Nous sommes un peu comme les disciples qui dorment pendant qu'il y a probablement la plus grande bataille spirituelle qui fait rage à ce moment-là, où le Seigneur Jésus, il prie dans le jardin de Gethsémané. Cet éveil, cette prise de conscience, elle nous interpelle sur un événement, une promesse, une prophétie. C'est l'imminence que nous devons porter, hein, sur l'imminence, pardon, que nous devons porter au retour de Christ. Dans ce texte, Pierre leur dit, sachez avant tout. Ce n'est pas pour donner une sorte de chronologie, mais par rapport à la priorité que nous devons porter à cela. La priorité concernant l'avènement du Seigneur. Rappelez-vous que Pierre, encore une fois, cherche à mettre ses lecteurs en garde contre les faux docteurs, contre leurs tactiques. Il veut les protéger. Et il les met en garde. Mais parmi les hérésies qui étaient prêchées, eh bien, il y avait celle-ci. C'était que Christ n'allait pas revenir. Pour cela, l'apôtre donne même des signes hein, pour nous aider à discerner hein, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Hein, il nous rappelle que, bien dans les derniers jours, voilà la société telle qu'elle sera. Voilà comment sera le monde. Il parle du fait, déjà au verset 3, qu'il y aura cette moquerie, cette raillerie de la part des détracteurs, de la part de ceux qui nient la réalité du retour de Christ. Il parle au verset 3 également de l'immoralité volontaire des détracteurs, parce qu'ils marchent selon leur propre convoitise. Ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas dirigés par l'enseignement de la parole, ils sont dirigés par leur propre convoitise. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi. Et vous verrez que tous les quelques, il y aura quelqu'un qui va apporter un nouvel enseignement concernant la Bible. Et les gens sont waouh! Et bien souvent, ces enseignements ne sont même pas bibliques. Et bien souvent, c'est un enseignement pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Il n'y a rien de mal à se sentir bien dans sa peau. Mais ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, hein, par rapport à qui nous sommes et combien grands nous sommes et combien bons nous sommes, etc. La parole de Dieu, elle nous montre, non, c'est Christ. Christ qui fait ses œuvres en vous. C'est lui qui nous transforme à son image. Mais Pierre n'était pas le seul à nous donner hein, des indices sur le monde des derniers jours. Hein, dans Matthieu, déjà, le Seigneur Jésus, au chapitre 24, nous parle hein, du retour et que lui-même ne sait pas. Ça ne veut pas dire que ben, il n'est pas omniscient s'il ne sait pas. Non, Christ a fait un choix de ne pas savoir cela. Hein, il a mis de côté cette connaissance-là. Mais il dit, au chapitre 24 de Matthieu, verset 36, il dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais il nous donne aussi des indices. Verset 37, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On peut regarder à cela et parler de l'aspect soudain hein, du jugement de Dieu, parce que là aussi, hein, les questions de ça, ce n'est pas simplement du retour de Christ, mais du jugement de Dieu sur l'humanité. Il parle de cette époque de Noé. Hein, au verset 38, il dit, car dans les jours hein, qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient, mariaient leurs enfants, donc ils vivaient leur vie. Ils vivaient leur truc tranquille, comme ils l'entendaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et là, c'est le cataclysme. Le cataclysme du jugement de Dieu sur l'humanité. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et quand on regarde à la société à l'époque de Noé, c'était probablement la société la plus plongée dans le péché qui ait jamais existé. Jusqu'à bientôt. Parce que voilà, ce que l'on voit à l'époque, dans le récit hein, de Noé et du déluge, de la société qui existait à l'époque-là, c'est qu'ils marchaient selon leur propre convoitise. Et tout ce à quoi ils pensaient chaque jour, à chaque moment, c'était au mal qu'ils pouvaient faire. Alors, nous ne sommes pas forcément hein, dans les derniers jours. Nous ne sommes pas dans une situation encore où l'humanité est dans un tel péché. Mais Christ nous donne des indices par rapport à cela. Paul également hein, nous parle dans sa première épître à Timothée au chapitre 4 que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et nous constatons cela. Nous constatons hein, dans de nombreuses églises, hein, et puis moi je regarde aussi à la perspective de ce qui se passe aux États-Unis, où beaucoup de jeunes abandonnent la foi. Parce qu'on leur enseigne habilement hein, ce que certains vont appeler des faits scientifiques qui vont les faire douter même de l'existence de Dieu. Dans sa seconde épître à Timothée, au chapitre 3, il parle aussi des derniers jours, qu'il y aurait des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce que Paul décrit ici, c'est que, voilà, ce sont ces faux docteurs qui donnent l'apparence d'être voilà, des personnes très saintes, des personnes très pieuses, mais dont l'enseignement et la prédication a pour objectif de provoquer eh bien, cette perte, cet abandon de la foi, de provoquer hein, ces doutes dans l'esprit des gens, et dans l'esprit des chrétiens, concernant les promesses de Dieu. Hein, Jude y reprend ces mêmes choses hein, dans les versets 17 à 19. Il dit, mes bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et s'ils n'ont pas l'esprit, ils ne sont même pas chrétiens. Ce ne sont même pas des personnes sauvées. Alors oui, la question hein, qu'on peut légitimement se poser. Hein, sommes-nous donc dans les derniers temps? Mon cœur l'espère. Parce qu'on sait qu'avec les derniers temps, eh bien, il y a l'avènement du Seigneur, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas confirmer quoi que ce soit. Si Christ dit moi-même, je ne sais pas, bah, c'est que personne d'entre nous ne peut avoir eh bien, le toupet de dire que moi je sais, alors que Christ ne sait pas. Mais ce qui arriva donc du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est ce qui nous est rappelé. Et on voit à chaque fois la société prendre des décisions, choisir une direction qui l'éloigne toujours plus de Dieu et de sa sainteté. Et ce que l'adversaire cherche à faire, c'est à nous endormir. C'est pour ça que Pierre nous dit, je cherche à éveiller votre saine intelligence. Parce que voilà, cette intelligence, elle peut être endormie. Il veut nous maintenir endormis concernant la promesse de l'avènement du Seigneur, parce que lorsque les chrétiens eh bien, vivent dans cette espérance, dans cet espoir du retour promis de Christ, eh bien, c'est là qu'on voit des chrétiens qui œuvrent pour le Seigneur. On voit des chrétiens qui ont ce zèle pour parler du Seigneur, de partager l'évangile, d'avoir cet enthousiasme spirituel où ils reconnaissent aussi hein, que c'est par Dieu et par Christ que leur vie a été changée, transformée, et ils veulent partager ça avec le plus grand nombre. Lorsque les chrétiens, par contre, oublient de voir le retour du Maître comme quelque chose qui est imminent, c'est-à-dire pas que on sait que ça va arriver dans 2 mois et 3 jours, et non, imminent, c'est-à-dire que ça peut tomber à n'importe quel moment. tout comme le déluge, à chambouler déjà toute la société à l'époque de Noé, parce qu'ils voient ça arriver, ils ne savent plus quoi faire, ils voient leur perdition. Il y aura un tel choc au retour du Christ également. Mais voilà, lorsque l'on est endormi, eh bien, on se met à se concentrer sur les choses éphémères de ce monde. Et on poursuit ces choses. Au lieu de poursuivre, eh bien, la volonté de Dieu, au lieu de poursuivre, eh bien, la sainteté à laquelle nous sommes appelés, on est en train de suivre, eh bien, ah, je vais faire comme eux, je vais faire ma petite vie, etc. Et c'est vrai que il nous a enseigné dans la parole que, voilà, on peut vivre dans la paix, hein, autant que cela dépende de nous, mais on sait, en lisant les Écritures, la réalité du monde dans lequel on vit. Et de tels chrétiens finissent donc par se concentrer donc sur les choses du monde ou à procrastiner dans l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire hein, on remet à plus tard les choses qu'on devrait faire pour le Seigneur. Ils en viennent à s'absorber dans ce qui est temporel et négliger l'éternel. Négliger le fait que les personnes autour de nous, eh bien, sans Christ, il y a un châtiment éternel. Sans Christ, ces personnes, hein, c'est un peu comme des zombies. Hein. Quel est le regard que nous portons sur les personnes perdues? Hein, bien trop souvent, on est absorbé hein, dans le fait, ben, on s'entend bien, on a des amis, etc. Et tout, et on est absorbé par voilà, le train-train quotidien, les choses habituelles. Et ce n'est pas forcément des mauvaises choses en soi. Mais on oublie de les regarder. Pour ce qu'ils sont. Ils sont morts spirituellement. Hein, il y a des années cela, il y avait un film qui était sorti, je ne me rappelle plus du titre, hein, mais l'idée du film, hein, c'était un gars qui tombait sur une caisse où il y avait des lunettes de soleil, il prend ses lunettes de soleil, il les met, et là, il se rend compte que, bon, il y a des gens normaux comme lui, mais autour de lui, il y a des gens qui, c'est pas des gens, hein, c'est supposément des aliens, des extraterrestres qui s'étaient infiltrés dans le monde, etc. Mais grâce à ces lunettes, il pouvait voir la réalité. Et je crois que bien souvent, on oublie de mettre nos lunettes spirituelles à nous et de voir la réalité que les personnes que nous croisons, les personnes que nous côtoyons, elles sont mortes spirituellement. Elles ont un visage comme un visage de zombie, si vous voulez prendre une autre référence de film, hein, c'est cela. Et l'adversaire, il sait que en parvenant donc à assoupir les chrétiens, à assoupir l'Église à ce sujet, eh bien, il va priver déjà d'une source considérable d'espérance et de motivation pour les chrétiens, mais il prive aussi les perdus de la grâce de Dieu. Alors oui, nous devons être spirituellement conscients de ces choses-là, mais deuxièmement, nous devons être scripturairement enracinés. En verset 2, Pierre, il parle de toutes ces choses. Qu'on sait déjà hein, que les prophètes ont annoncé, que Christ a enseigné, que les apôtres ont enseigné, hein, en verset 2. Et il nous rappelle de ce que le jugement de Dieu, il a été annoncé depuis les siècles. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein, dans tout l'Ancien Testament, les prophètes prédisent continuellement ce jugement à venir de Dieu sur l'ensemble de l'humanité. Que ce soit dans Ésaïe ou Malachie, hein, vous prenez tous les prophètes entre, vous aurez une référence, quelque chose par rapport à ce jour de jugement à venir. Ceux qui disent que, voilà, le jugement de Dieu, bon, Dieu n'est-il pas amour? Hein, on va vous dire que toutes les religions se valent, et que Dieu est amour et qu'il ne condamnera personne. Hein, il nie ce que Dieu a révélé dans les Écritures. Et même certains croient, hein, notamment comme les témoins de Jéhovah, ils croient en un anéantissement. C'est-à-dire que le jugement de Dieu, c'est voilà, l'âme est anéantie, n'existe plus. Mais il y a pas, c'est pas un châtiment éternel, ça. Et la Bible enseigne constamment, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que ce jugement aura lieu. Nous devons nous rappeler de ce qui a déjà été accompli aussi par la puissance de la parole. Et c'est ce que Pierre il rappelle ici. Hein. Les détracteurs ils disent, où est l'avènement du Seigneur? Et il montre que ces personnes-là choisissent d'ignorer ce qui a déjà été fait par Dieu et accompli par Dieu, comme le déluge. La parole, elle est puissante, et nous le savons, parce que nous avons des prophéties qui se sont accomplies en Christ, hein, toutes ces prophéties messianiques, mais encore des prophéties qui restent à venir, comme le retour du Christ. Les versets 6 et 7 hein, nous parlent de ces jugements passés, de ces châtiments de Dieu sur l'humanité. Et cette même parole, qui tient donc pour certaine et assurée le retour du Seigneur, elle est la même qui proclame le jugement à venir, mais qui a aussi proclamé ces jugements passés. Et pour ceux qui pensent que, eh bien voilà, Dieu n'intervient pas, n'agit pas dans l'histoire de l'humanité, Pierre leur dit, non, on le voit, on voit Dieu agir. Et dans le livre de Job qu'on est en train de lire, on voit cela. Posons-nous la question, que serait vraiment le monde si l'Esprit de Dieu n'était pas ici, déjà, à chercher à nous convaincre, chaque être humain, de notre péché, mais aussi à empêcher le mal de se propager davantage. Il ne resterait plus rien. Et donc nous devons nous appuyer sur, voilà ce que la parole nous a déjà enseigné. Nous appuyons sur ce que nous savons même de Dieu et de sa personne. Hein, au verset 8, il nous parle de quoi? Ah, ben, il nous parle de l'aspect éternel de Dieu. Hein, un jour sont comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Et beaucoup prennent ce verset hors de contexte pour essayer de dire, voilà, l'évolution, c'est Dieu qui a mis ça en place, il y a des millions d'années, machin, etc. C'est pas de ça que parle ce verset-là. Ce verset-là, il parle du fait que Dieu est dans un continuel présent. Il est. Je suis. Et donc, en parlant ici de cela, il nous ramène à penser aux attributs de Dieu, de qui il est. Les attributs définissent qui Dieu est. Et en théologie, on a souvent tendance donc à regrouper tous ces différents attributs en deux groupes, hein, des attributs qu'on appelle absolus hein, et d'autres qu'on va appeler relatifs. Mais voilà, parmi les attributs de Dieu et les attributs absolus, c'est que, si on devait résumer, hein, c'est que Dieu est esprit, il est l'esprit infini et parfait, il est l'origine et le soutien et la fin de tout. Ça, si on prenait tous les attributs de Dieu, voilà ce à quoi on arrive comme conclusion. Il est la vie. Il est la vérité. Il est l'amour. Il est la sainteté. Il est immuable, il ne change pas. Il est un, il existe de manière indépendante. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour le créer. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Il est éternel, il est immense, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Tous ces attributs-là, on doit se rediriger vers cela, se rappeler de qui Dieu est. Et donc, Pierre ici, oui, il nous rappelle l'éternité, il nous rappelle la grâce, il nous rappelle la patience de Dieu en réponse aux détracteurs concernant le retour du Seigneur Jésus. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il use de patience envers nous. Sa réponse se base sur la nature même de Dieu. Et donc, si Christ ne revient pas immédiatement, et s'il n'est pas encore revenu encore aujourd'hui, c'est cette patience. Et cette patience, elle émane de quoi? Elle émane de sa miséricorde, de sa grâce, de son amour, de sa justice et de sa sainteté. Il émane complètement de sa personne. Et toute attente tient donc uniquement à la grâce divine qui subsiste. Ce n'est pas que Dieu il est indifférent, c'est pas que Dieu il est impuissant ou qu'il n'intervient pas dans les affaires humaines. Non, c'est parce qu'il est Dieu et il use de patience envers tous pour qu'ils changent leur voie. La vérité du retour de Christ, n'est pas seulement hein, pour les impies. Hein, dans ce texte, il parle de plusieurs choses. Il parle du retour de Christ, hein, l'espérance du croyant. Il parle aussi des jugements de Dieu, hein, puisque justement nous savons que les événements passés se sont produits. Eh bien, nous sommes assurés du retour de Christ, mais aussi assurés de ses jugements à venir. Et ça implique de notre part, eh bien, que nous vivions selon cette vérité immuable, inchangeable, absolue. Elle implique de notre part que nous ayons donc le témoignage qui accompagne une telle vérité, une telle espérance. Et ça, c'est la troisième chose que je veux que vous notiez. À partir du verset 11, Pierre, il nous engage, eh bien, à vivre conformément à cette espérance. Oui, nous espérons cette justice, mais en attendant, il ne faut pas être comme les disciples à attendre comme ça. Il y a une vie à vivre. Il y a un témoignage à donner. Les anges leur avaient posé la question, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Notre vie, elle doit donc être caractérisée par une conduite pieuse et sainte. Il y a, oui, une attente et une patience que nous devons avoir concernant le retour de Christ. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui nous dit ici, au verset 12, attendez et hâtez l'avènement du Seigneur. Alors je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire que ben, Christ revienne plus tôt? Parce que l'idée de hâter, c'est ça aussi. Mais il dit attendez et hâtez. Mais il lie tout ça aussi à la vie que nous devons mener. Il est en train de lier cela à une vie pieuse que nous devons vivre. Hein, la piété, c'est quoi? La piété, c'est lier à Dieu. La piété, c'est voilà, rechercher Dieu et s'appliquer à suivre son exemple, à être eh bien, ce qu'il est. Bon, on ne va pas être tout-puissant, omniprésent, omniscient, etc. comme lui, mais il a dit déjà au peuple d'Israël, soyez saints car je suis saint. Et il le répète dans le Nouveau Testament encore. L'idée, c'est que nous suivions l'exemple de Dieu dans sa sainteté, dans sa justice, dans son amour et sa grâce et sa miséricorde. Mais cette vie pieuse du peuple du Seigneur, ses prières, son témoignage, c'est ce qui va faire quoi? C'est ce qui va contribuer à être un témoignage et un exemple pour les autres, à attirer les autres vers Christ. Un Christ, il a dit, je suis la lumière du monde. Mais il a aussi dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière, elle est faite pour briller. Et une vie chrétienne, elle est faite pour briller. Notre témoignage est fait pour briller. L'une des œuvres principales de l'Église locale, et ça on verra dans quelques mois, Dieu voulant, c'est de prêcher l'Évangile, de propager ce message qui transcende, qui change l'être humain. Cet Évangile que nous devons prêcher en toute occasion, favorable ou non, hein, la parole de Dieu. Et donc pour accentuer encore davantage tout ceci, Pierre répète qu'au commencement de l'éternité, hein, ici c'est ce qu'on appelle hein, le jour de Dieu, eh bien les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront, et cet événement mettra fin au jugement. Et là, donc, tout sera tel que Dieu le voulait. De nouveaux cieux, nouvelle terre. Au verset 14, il nous engage à vivre conformément à notre espérance en ayant cette pureté de cœur et d'action. Hein, appliquez-vous à rechercher la sainteté, à vivre selon la sainteté. C'est ce que Pierre nous montre ici dans ce verset. Parce que pour montrer que la conduite d'une personne est liée à son attente de la venue du Seigneur, Pierre il dit, c'est pourquoi. Voilà la raison. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à être pieux. Et ça s'applique à nous dans notre témoignage, à être sans tache, irréprochable. C'est à fuir le péché, à fuir l'influence du du péché et à rechercher l'influence de Dieu dans sa vie. L'effet docteur, comme Pierre nous le dit dans quelques versets auparavant, au chapitre 2, verset 13, qu'ils étaient souillés, hein, tarés et souillés. On a ici un contraste extraordinaire entre ce que ces hommes étaient et ce que nous sommes appelés à être. Tout ceci, hein, c'est que nous les croyants, hein, nous devons être purs, hein, moralement purs, comme Christ, suivre son exemple, lui qui est l'agneau sans tache, nous devons être sans tache et irréprochables. Et ça, c'est ce à quoi nous devons nous appliquer jusqu'à cet avènement du Seigneur, où là, eh bien, il va transformer entièrement, complètement notre vie. Verset 15, il nous engage à avoir une foi continuelle, de persévérer dans la foi, de persévérer dans cette attente, dans cette espérance du retour du Seigneur. C'est pas juste de dire, moi, j'accepte la grâce de Dieu, mais après, je vis ma vie comme je l'entends. Une telle personne, je suis persuadé, ne connaît pas vraiment la grâce de Dieu. Ne reconnaît pas l'immensité de son péché. Une foi continuelle. Aujourd'hui encore, toutes les personnes autour de nous ont encore le temps de se repentir et de venir à Christ, parce que Dieu use de patience. Mais lorsque le jour du jugement viendra, ce sera trop tard. Et alors nous devons nous poser la question. Est-ce que ma foi, c'est quelque chose de continuel? Est-ce que mon exemple, est-ce que ma vie représente Christ? Est-ce que ma vie est vraiment celle que Dieu attend de moi? Verset 17, il nous dit de tenir ferme, d'être sur nos gardes, d'avoir ce discernement. Hein, on revient à l'importance de connaître la parole, d'étudier les doctrines, d'analyser les enseignements et les pratiques, de pouvoir faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est impur. Pourquoi? Parce que le monde constamment est en train de redéfinir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais nous avons le dictionnaire ici. Nous avons la définition. Et on doit s'attacher à cette définition. Et on doit utiliser cette définition pour discerner ce qui est saint, ce qui est agréable, ce qui est bon concernant les activités de l'Église et les enseignements de l'Église, mais aussi pour notre propre vie, les choix que nous faisons. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas, le risque, c'est encore une fois d'être entraîné par l'égarement des impies. Et il parle de déchoir, hein, de notre fermeté. On ne perd pas notre salut. Ce qu'on perd, c'est l'assurance. Ce que l'on perd ici, c'est d'avoir une vie stable spirituellement, parce que nous n'avons pas usé de discernement. C'est facile d'être entraîné lorsque on n'a pas la connaissance. C'est facile d'être emporté à tout vent de doctrine lorsqu'on n'a pas la connaissance des Écritures. De trop nombreux chrétiens se laissent enliser parce qu'ils n'apprécient pas tout ce que Dieu donne. Oh, ils apprécient, voilà, la grâce de Dieu, Dieu m'a pardonné, c'est bon, je vais au ciel. Ça, on apprécie. On apprécie sa miséricorde et son amour, mais il ne se préoccupe pas de la sainteté. La sainteté, c'est ce qui est diamétralement opposé au péché. La sainteté, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a manifesté cette grâce et cette miséricorde en tout premier lieu. Ceux qui ne se préoccupent pas de la sainteté, de poursuivre, eh bien, cette sainteté, cette connaissance, Eh bien, ils n'ont pas compris la raison pour laquelle Dieu use de patience. N'ont pas compris la grâce de Dieu. Et finalement, ils ont une vue malsaine de Dieu. Quelque part, ils ont même modelé Dieu à ce qu'ils aimeraient que Dieu soit. C'est-à-dire, voilà, Dieu, ouais, ta grâce, je veux bien. Tes bénédictions, je veux bien. Ton amour, je veux bien. Mais alors, ce que tu me demandes de faire, de me séparer du péché, ou de me séparer des influences du monde, et de vivre différemment des autres, non, ça, je veux pas. Est-ce que le chrétien finit par faire, là, c'est de modeler Dieu. Il s'est fabriqué sa petite idole, finalement. On ne peut pas négliger aucun aspect de Dieu. C'est pas, il y a l'expression en anglais cherry picking, hein, c'est prendre ce qu'on a envie, hein, de la personne de Dieu. Non, c'est Dieu dans son ensemble. Et ça implique cette sainteté. Des progrès spirituels manifestes doivent donc jaillir de notre vie chrétienne. C'est ce que Pierre nous dit. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Croître dans la grâce, c'est pas quelque chose donc de subjectif, hein, qui est fondé simplement sur une expérience ou sur des émotions, etc. C'est croître dans la grâce et dans la connaissance. Quand on saisit la grâce de Dieu, qui implique pas simplement que voilà, nous sommes pardonnés, il n'y a plus de condamnation, mais qui implique que nous fassions le meilleur usage de cette nouvelle vie qui nous est donnée. Et le meilleur usage possible, eh bien, c'est de marcher dans la sainteté, c'est de croître encore une fois dans la connaissance de Christ. Il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance, n'est-ce pas? C'est la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On en revient à ces deux aspects. Beaucoup s'attachent à Sauveur sans forcément reconnaître la Seigneurie de Christ. C'est comme prendre un cadeau et partir avec ce cadeau sans même jamais dire merci ou être reconnaissant envers la personne qui nous a fait ce cadeau. Donc le verbe ici, croître, c'est un impératif présent. Hein, c'est soyez continuellement en train de croître dans la grâce, dans cette faveur imméritée de Dieu. Nous rappeler que nous ne méritons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne méritons pas les bénédictions que nous avons aujourd'hui. Nous ne les méritons pas. Et quand on se rappelle de cette grâce imméritée, eh bien, ça nous ramène à un caractère plus humble. Et plus reconnaissant. Ça nous ramène à l'exemple même de Christ. Et quand on prend toutes ces choses, donc, concernant, oui, le retour du Seigneur, cette espérance du croyant, quand on prend tout ce que Pierre nous enseigne par rapport à ces choses à venir, à comment le monde va être, etc., et ce à quoi on va échapper. Ça nous amène naturellement à rechercher la louange de Dieu et à proclamer sa gloire, proclamer ses œuvres, proclamer sa personne, que ce soit, eh bien, dans notre vie, par notre vie, mais ça sera en vivant conformément à sa volonté, en vivant conformément à sa sainteté. Alors, les questions pour nous, c'est, sommes-nous spirituellement conscients de la réalité du monde? Et par rapport à cette prise de conscience, que faisons-nous? Est-ce que nous nous enracinons chaque jour davantage dans l'enseignement de la parole afin de tenir ferme? Est-ce que nous vivons selon la réalité de cette espérance qui est en nous? Ça, c'est la question. Parce qu'on peut être comme les disciples au début. On attend, mais on est inutile parce qu'on ne fait rien. Parce que on est là éloigné de tous ceux qui sont dans les ténèbres. Là, à ce moment-là de l'ascension, hein, il n'y a que les chrétiens qui sont là. Et donc, il y a une mise en garde ici pour nous aussi. En attendant, que faisons-nous? Qui sommes-nous? que proclamons-nous?